Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Avant de commencer le message, je voudrais vraiment qu'on puisse féliciter tous nos jeunes. Hier, ils ont participé à un tournoi de mini-foot chrétien. Et nous voulons vraiment leur dire merci qu'ils ont représenté l'église de Jumet. Ils n'ont pas gagné le tournoi, mais ils ont bien joué. J'ai eu des échos, ils ont bien joué. Si une petite église et trouver des joueurs, c'est pas évident, mais aussi c'est la première fois, du moins la plupart, qui jouaient ensemble. Et c'est difficile de jouer pour une première fois ensemble. Pour gagner un tournoi, il faut bien sûr se connaître de plus en plus. Et j'espère que l'année prochaine, ils vont la gagner. Alors, ce matin, je ne sais pas si vous avez réfléchi un jour comment Jésus vivait quand il était jeune, avant son ministère. Comment il vivait, Jésus? Certainement qu'il honorait son père et sa mère. Certainement que c'était un enfant obéissant, mais aussi un garçon qui travaillait de ses propres mains. Il était charpentier. Peut-être qu'à table, au repas, son père et sa mère lui ont dit peut-être « Tu veux bien prier ?» Ou lui-même, le matin, il réveillait son père, sa mère, ses frères. « Allez, il est l'heure d'aller au culte. » Je ne sais pas comment ses frères, la famille, voyaient Jésus. Comment ils voyaient Jésus? Nous voyons dans l'Ancien Testament Joseph, le fils de Jacob, ses frères étaient jaloux de lui. Je ne sais pas comment la famille de Jésus voyait Jésus, comment ils étaient avec lui. Et je voudrais lire avec vous un passage qu'on connaît très bien, c'est dans l'évangile de Marc, mais on peut trouver ça également dans Matthieu et Luc. Je voudrais m'arrêter sur le chapitre 3 dans Marc. Et on va lire les versets 21 à 35. Il est dit, ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre le repas. Alors ça, c'était le verset 21. Je me suis trompé, c'est le 31. Survinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. » Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là, est mon frère, ma sœur et ma mère. Voilà pour ce matin la lecture. Bien sûr, il faut comprendre un peu le contexte de cette lecture. On voit que Jésus est dans une maison, certainement la maison de Pierre et de André. Et là, dans cette maison, il y a une foule de personnes. Impossible de rentrer, tellement qu'il y a beaucoup de monde. Et la plupart, bien sûr, sont dehors. Certainement, ces gens sont venus pour entendre Jésus parler, mais aussi peut-être voir la puissance de Jésus. Et voilà que sa mère et ses demi-frères arrivent à la maison. Mais comme il y a beaucoup de monde, il est impossible qu'ils puissent rentrer dans cette maison. Et dans l'évangile de Matthieu, il est dit qu'il cherchait à lui parler, la mère et les frères. Dans Luc, il est dit « Ta mère et tes frères sont dehors et ils veulent te voir. » Dans Marc, « Ils sont dehors et ils te demandent, ils t'appellent. » On voit que dans ces trois évangiles, la mère et les frères cherchent à lui parler, à le voir, ils t'appellent. C'est quelque chose d'urgent et important. Pourquoi la mère et les demi-frères cherchent Jésus? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question là? Eh bien, la réponse se trouve, je vais le lire avant de commencer, se trouve dans le verset 21 de ce chapitre 3 dans Marc. Les parents de Jésus, la famille, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Il est hors de sens. Les scribes de cette époque-là, des religieux, disaient que Jésus était possédé. Sa mère et ses demi-frères sont venus à Capernaüm pour le retrouver. Il est hors de sens, qui signifie il a perdu la raison, il est fou. Il a perdu la maîtrise de sa faculté. Une mère qui s'inquiète de son fils, ses frères qui ne croyaient pas en lui. Ils pensent vraiment que la famille pensait que Jésus devient fou. Une mère qui a déjà été angoissée quand Jésus avait 12 ans. Jésus parlait dans un temple et dans ce temple, il avait des docteurs. C'est pas n'importe qui. Et ces docteurs ont dit qu'ils étaient surpris de son intelligence. Pas qu'il était fou. Son intelligence. Et les parents cherchaient Jésus et quand ils l'ont retrouvé, il est dit, « Pourquoi nous as-tu fait cela? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse, avec peur. » C'est dans Luc. Et Jésus répond, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » Jésus n'était pas fou. Il s'occupait des affaires de son Père. Et on va regarder ensemble les paroles de Jésus. « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » On va regarder ce que Jésus dit. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Surprenant la réponse de Jésus. Jésus ne dit pas ça dans l'intention de ne pas marquer de respect envers sa mère et son père. Tu honoreras ton père, ta mère, dans l'Ancien Testament. Ni de leur faire affront à sa famille. Car Jésus aime sa mère et ses demi-frères. On voit que dans Jean au chapitre 19, quand Jésus est sur la croix, il dit à son disciple, « Jean, prends soin de ma mère. » Jésus n'est pas là en train de renoncer à sa famille. Loin de là, il aime sa famille. Mais Jésus profite de la question pour dire une vérité importante. C'est l'occasion d'enseigner la vérité. Quand je jouais à l'époque, mon entraîneur, il dit, sur un match, il peut avoir qu'une seule occasion pour gagner un match. Et là, il y a une seule occasion pour dire la vérité à tous ces gens qui sont assis, mais ainsi à sa famille. La vérité, c'est qu'il invite le monde entier à entrer dans sa famille, une famille spirituelle et éternelle. La vérité, c'est que être dans une famille terrestre croyante ne procure pas le salut. Sa mère et ses demi-frères, ils ont besoin aussi d'être sauvés de leurs péchés pour être dans la famille spirituelle et éternelle. Les Juifs, à l'époque, et encore certainement aujourd'hui, se disent « Nous sommes descendants d'Abraham. » Et si nous sommes descendants d'Abraham, nous sommes enfants de Dieu. Et Paul doit rectifier ce tir. Il dit dans Romains, je voudrais lire avec vous, Romains au chapitre 9, versets 6 à 8, il est dit « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité », c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voilà que l'apôtre Paul rectifie le tir. Être israélite par la chair ne sont donc pas israélites spirituels. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Ils doivent passer par la repentance. La leçon du Seigneur, c'est que la seule relation n'est pas physique, mais spirituelle par la foi. Jésus dira à Nicodème, ce rabbin, ce juif, ce n'est pas par la naissance terrestre qu'on entre dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu. Mais c'est par une naissance d'en haut. Cette naissance d'en haut est pour toi une naissance spirituelle, une famille spirituelle et éternelle. Alors, mon premier point, je vous rassure, il n'y a que deux points. Mon premier point, tout enfant chrétien qui est né dans une famille chrétienne, qui a eu un papa ou une maman chrétienne, ou les deux, tous les enfants. Je ne parle pas les jeunes, tous les enfants qui sont nés dans une famille chrétienne. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que tu es enfant de Dieu. Parfois, c'est même un obstacle pour eux, parce qu'ils suivent les principes religieux. Ils suivent les traditions religieuses. Je m'explique. Mes parents sont chrétiens, mon papa est pasteur, je vais être pasteur. Ma maman, elle est prof d'école des dimanches, je vais faire la même chose. Mon papa, ma maman m'enseignent le baptême, je fais le baptême. Mon papa, ma maman m'enseignent d'aller à l'église, je vais à l'église. Tous ces principes, toutes ces traditions sont bonnes. Mais est-ce que j'ai réfléchi qu'elles ne me portent pas à être enfant de Dieu? que j'ai la responsabilité, moi seul, à prendre la décision. Jésus profite de la question pour dire une vérité importante. C'est que toute personne doit reconnaître que le salut ne vient pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. C'est dans Jean chapitre 1. Ne vient pas du sang, qui veut dire « nul ne devient chrétien parce que ses parents sont chrétiens ». Le salut se transmet pas de parent en enfant au moyen du sang. J'étais un jour avec un collègue et je parlais de Jésus-Christ à mon collègue. Et tout à un coup, il m'arrête et me dit « Gino, moi je suis catholique et je reste catholique ». Mais je ne lui parlais pas de la religion, je lui parlais de Jésus-Christ. Et puis il me dit, tu sais, moi je ne vais pas offenser mes parents. Ils sont catholiques et je reste catholique. C'est ainsi que ça fonctionne, la religion. Mes parents sont protestants, je suis protestant. Mes parents sont musulmans, je reste musulman. Je reste parce que je suis les principes de mes parents, les traditions de mes parents, sans comprendre c'est qui Jésus-Christ. C'est qui Jésus? Sans connaître Jésus-Christ, on peut suivre une religion des années et des années sans connaître Jésus-Christ. Ça fait 30 ans que Jésus était avec cette famille et il ne le connaissait même pas. Au contraire, il se disait qu'il était fou. L'enfant doit croire en lui, c'est-à-dire il doit le recevoir, Jésus-Christ. Pour entrer dans cette famille spirituelle et éternelle, je suis conscient, c'est même la chose plus difficile, d'être dans une famille chrétienne et se dire « quand j'ai pris la décision ?» On ne sait plus dire la date, ni l'heure, quand nous sommes dans une famille chrétienne. Je le crois, c'est vrai. Mais il est bon d'écouter et d'obéir. Qui veut dire l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En quelque sorte, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui se manifeste à l'intérieur de nous. Et elle se manifeste dans une vie de sanctification, qui veut dire une vie de repentance. Parfois, on a envie d'entendre une petite voix en nous-mêmes de dire « Oui, tu es sauvé ». Mais c'est l'Esprit qui produit cette assurance en toi que tu es enfant de Dieu. Qui veut dire, quand tu pèches, tu détestes le péché. Tu dis en toi-même, je ne veux pas faire cela. En toi-même, tu as ce désir que le Christ revienne. En toi-même, tu as envie d'aimer les uns les autres. Et parfois, il y a le doute. Effectivement, le doute vient. Alors l'Esprit qui habite en toi te dit que tu es enfant de Dieu. Alors écoute et obéis ce que Dieu nous demande de faire. Ce premier point, la famille chrétienne doit être conscient que le salut vient de Dieu. Et chaque enfant doit prendre cette décision lui-même. Marie et ses demi-frères devaient réaliser que la tradition qu'ils vivaient, les principes qu'ils vivaient, ne portaient pas en eux être enfants de Dieu. Ils devaient réaliser qu'ils avaient besoin de Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Deuxième point. Nous voyons dans Luc une femme élevant la voix devant plein de personnes, au milieu d'une foule, il est dit. Et elle crie ainsi, elle dit « Heureux le sein qui t'a porté !» Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Quelle déclaration devant tout le monde! Une déclaration qui est juste et bonne. Quelle louange de cette femme! C'est vrai que Marie a eu un grand bonheur d'avoir Jésus-Christ. C'est vrai que ma mère a eu un grand bonheur de m'avoir. Non, je rigole. Mais tous les mamans peuvent dire ça pour ses enfants. Mais quel bonheur pour Marie d'avoir porté Jésus, d'avoir élevé Jésus. Quelle déclaration de cette femme. Savez-vous que c'est une déclaration incomplète, une demi-vérité? Parce que Jésus répond à cette femme et lui dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Une réponse surprenante de Jésus. Oui, Marie a eu un grand bonheur d'avoir Jésus. Mais Jésus déclare, pour être heureux, c'est d'écouter la parole de Dieu et qui la garde et qui la mette en pratique. Jésus souligne qu'il y a plus de bonheur à un chrétien d'écouter le Seigneur que vivre dans une famille chrétienne. Les relations familiales ne sont pas ce qui est plus important dans la vie. C'est vrai, c'est un bonheur. Je parlais avec une dame au début de la semaine, elle m'a dit, et c'est une vérité, du moment qu'on est bien en famille, c'est le bonheur, c'est bien de bien s'entendre en famille. C'est vrai, c'est un bonheur. Mais Jésus souligne, mais pour avoir le plus grand bonheur, c'est écouter et obéir. Alors tu es dans la famille spirituelle et éternelle. Dans Luc au chapitre 8, le même récit que Marc nous dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voilà mon deuxième point. Il faut croire. Mais croire va ensemble d'obéir et de mettre en pratique. Ça, c'est le bonheur. C'est être heureux. C'est vivre une famille spirituelle et éternelle. Alors, vous allez me dire, écouter et obéir, c'est difficile. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Combien de fois j'écoute le Seigneur et je désobéis par le péché. Alors, qu'est-ce qu'on fait, bien sûr? On retourne à la croix et on demande pardon. Après une semaine ou peut-être 10 jours, on retombe encore à la même chose et on pêche. On retourne à la croix et on demande pardon. Après 4-5 fois, on est un peu gêné de revenir à la croix et lui demander pardon. Alors vient le découragement. Et on se décourage. Alors j'ai entendu il n'y a pas si longtemps une illustration. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle fait du bien. Voilà que tu aimes bien une équipe de basket, de volley ou de foot. Ici, il y a beaucoup de joueurs. Manchester City, Arsenal, le Real. Voilà que c'est l'équipe que tu aimes bien. Et voilà qu'ils jouent et ils perdent ton équipe. Le lendemain, tu vois un collègue ou un ami, tu dis « Nous avons perdu ». Ou juste, tu n'as pas joué. Tu étais au fauteuil en train de boire ton café, tu regardais le match, tu n'as pas perdu. C'est eux qui ont perdu. Effectivement, c'est eux qui ont perdu. Mais tu t'associes à cette équipe. Ça veut dire que tu as perdu également. Qui veut dire une chose importante. Adam et Ève, c'est eux qui ont péché, c'est pas nous. C'est eux qui ont péché. Mais nous sommes associés à Adam et Ève. À chaque fois que nous péchons, nous confirmons que nous appartenons à Adam et Ève. Nous sommes des perdants. Nous avons perdu. Parce que nous confirmons par notre péché. Voilà que maintenant ton équipe gagne. Tu vois ton collègue, ton ami, tu dis « Nous avons gagné ». Mais tu n'as pas joué. Mais tu t'associes à cette équipe. Tu as gagné. Jésus-Christ, quand il était sur la croix, il a gagné pour toi. Nous sommes associés à lui, à Jésus-Christ. Et quand tu obéis, tu confirmes cette victoire. Cette nouvelle naissance nous appelle à obéir pour te rappeler que Jésus-Christ a gagné pour toi. Mais tant que nous sommes sur cette terre, bien sûr, il y a des difficultés, des luttes et des combats. La vraie victoire va arriver. Mais pour l'instant, nous sommes appelés à écouter et à obéir avec l'aide de l'Esprit de Dieu en nous. Alors, à chaque fois que tu obéis, tu peux crier « Merci Seigneur, tu as gagné pour moi ». Alors, quand tu vas obéir, certainement que ta famille, tes amis, tes collègues vont te prendre pour un fou. Ils vont dire la même chose. Il est fou. Moi, je me souviens quand mon frère s'est converti, toute la famille, on lui a dit, il est fou. Ma grand-mère, avant de décéder, elle a donné son cœur à Jésus-Christ. Et ses enfants l'ont pris pour une folle. Je me souviens, dans ses derniers jours, elle dormait avec moi. Je ne savais pas qu'elle priait, mais elle faisait à haute voix sa prière. Et je disais, elle est folle. Quand on obéit à Jésus-Christ, on est des fous. Alentour de nous, ils nous prennent pour des fous. Alors, la famille et tes amis, tes collègues, vont venir te chercher comme la mère et les demi-frères. Ils sont venus à Capernaum pour le retrouver, pour venir le chercher et le faire revenir à Nazareth. C'est ce que la famille, tes amis, tes collègues veulent faire avec toi. Alors, c'est à nous de répondre. Je suis là parce que je m'occupe des affaires de mon Père. Je m'occupe des affaires de mon Père. Écouter, obéir, c'est de s'occuper des affaires de notre Père. Premier point, l'enfant chrétien doit croire en Jésus-Christ, lui seul. Deuxième point, tout chrétien doit croire en Jésus et nous devons confirmer par notre obéissance que nous avons la victoire grâce à Jésus-Christ. Nous sommes dans cette famille spirituelle et éternelle. Quel bonheur! Nous sommes heureux ce matin de lui appartenir. Jésus doit répondre une vérité au monde entier, qu'ils doivent rentrer par lui pour entrer dans la famille de Dieu. Ainsi, nous pouvons crier, Dieu est notre Père, pas simplement notre Dieu, comme les religieux le disent. Non, il est notre Père. Et être notre Père, c'est occuper de ses affaires, de notre Père. Alors cette semaine, est-ce que tu vas t'occuper des affaires de ton Père, de notre Père? Que le Seigneur t'aide durant cette semaine. Amen.